n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Plus de 300 personnes vivant avec le VIH sont suivies au centre hospitalier à Bourg et certaines suivent un programme d'éducation thérapeutique, rencontre avec son coordonnateur, le point aussi sur les traitements et les recherches pour un vaccin avec le responsable du service infectiologie.
Et on vous emmène en Italie, l'association franco-italienne de Bourg propose des cours pour tous les âges.
Et tout de suite, votre actu en bref.
Bourg en bref.
Anticipez vos demandes de carte d'identité et de passeport.
La préfecture recommande de bien prendre de l'avance si vous avez besoin de nouveaux papiers d'identité. Les délais sont assez longs en ce moment. Il y a de nombreuses demandes. Il faut prévoir 3 mois pour avoir ces papiers selon la préfecture. Vous pouvez commencer votre demande par Internet et vérifier bien que vous avez tous les documents nécessaires. La liste est aussi disponible en ligne sur le site www.service-public.fr.
Une conférence sur l'école et la pauvreté avec l'association ABCDE.
Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, sera l'invité de l'association Bressane citoyenne de débat et d'échange. C'est à 20h le 13 décembre à la salle d'animation de Malafretta. Il parlera du poids de l'origine sociale sur le parcours scolaire en France, mais aussi des solutions pour rendre l'école plus juste.
Le chef indinois Georges Blanc en tête du classement des meilleurs restaurants du monde.
On ne présente plus Georges Blanc, le grand chef étoilé est en 4e position dans La Liste 2023, un classement pour récompenser les meilleurs établissements étoilés du monde. C'est bien sûr avec son restaurant 3 étoiles situé à Vona qu'il remporte cette place.
Et toujours dans ce thème, les Glorieuses de Bresse commencent le 16 décembre.
C'est la 160e édition de ce concours. Il récompense les plus belles volailles de l'appellation d'origine contrôlée Bresse. À 14h ce vendredi, le prix de la crête d'or sera remis pour désigner la plus belle volaille de Bresse. Et ce sera sur le parvis du marché couvert à Bourg-en-Bresse.
Et c'est la saison des marchés de Noël.
Et vous êtes peut-être déjà allé au marché Place des Bons Enfants, mais il y a encore d'autres rendez-vous pour trouver des cadeaux pour vos proches. Un marché créatif à l'espace H2M de Bourg, avec plusieurs exposants locaux qui vendent des objets d'art ou artisanaux. C'est du 2 au 8 décembre de 13h à 19h. Et à la tannerie, le marché de Noël, c'est ce dimanche de 14h à 19h, avec de nombreux produits locaux à découvrir.
L'invité de Radio B.
En 2021, dans le monde, selon l'ONU-SIDA, plus de 38 millions de personnes vivaient avec le VIH. 1,5 million de personnes ont été infectées par le VIH et 650 000 personnes sont décédées de maladies liées au SIDA, des chiffres de l'ONU-SIDA. Jeudi dernier, le 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le SIDA. À cette occasion, l'hôpital de Fleuria à Bourg-en-Bresse a organisé une soirée spéciale ouverte aux professionnels. Le docteur Patrick Mial, responsable du service infectiologie du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, était l'un des intervenants. On commence déjà par un point vocabulaire. VIH, SIDA, est-ce la même chose? De quoi parle-t-on?
Le virus VIH, c'est un virus qui se transmet par des rapports intimes, soit sexuels, soit par transmission sanguine, transfusion, toxicomanie. Probablement les premiers cas ont été développés en Afrique. L'origine de ce virus est une adaptation du virus VIH d'un virus d'un singe, d'un chimpanzé exactement. Et donc petit à petit, comme pour l'histoire du coronavirus, il s'adaptait à nous. C'est une infection donc qui entraîne un déficit immunitaire, puisque ce virus va s'intégrer dans nos lymphocytes de défense, qui sont nos cellules immunitaires de défense, et il va entraîner un déficit immunitaire acquis par ce virus. Au moment où on est contaminé, on a un malade sur deux qui a des symptômes, mais souvent on n'a pas forcément de symptômes. Et après quelques années, ce système immunitaire étant détruit par ce virus, ça met en général 10 ans entre le moment où on est contaminé et le moment où on arrive à être une maladie, c'est-à-dire un déficit immunitaire, qui va révéler ce qu'on appelle le sida. Donc le sida, c'est une forme compliquée d'une infection à VIH non dépistée, non suivie, non traité.
Se faire dépister au plus tôt du VIH permet de prendre rapidement un traitement et donc de ne pas en mourir, de ne plus transmettre et de stopper l'épidémie. Mais avec la pandémie de Covid-19, le docteur Mial le constate, du temps a été perdu pour le dépistage. Moins de personnes ont fait le dépistage pendant les différents confinements et il y a eu aussi des conséquences après.
Au moment où on a un peu libéré les gens, il y a eu des prises de risque. Et ces prises de risque, après, n'ont pas été suivies d'un dépistage, qui font qu'on a dépisté des gens un an, deux ans, voire plus tard, alors qu'ils auraient pu être dépistés tôt. Et donc, on a eu des contaminations habituelles, mais non dépistées, donc une recrudescence des cas d'une maladie qui est, en général, au début, asymptomatique. C'est quand on arrive au stade de maladie, donc parfois 8, 10 ans plus tard, qu'on a des symptômes, qu'on révèle une infection. Le but, c'est de le dépister avant qu'on soit symptomatique, c'est toujours plus facile à traiter et il y a surtout moins de risques de maladies graves et peut-être parfois même de mortalité parce que c'est une maladie mortelle sans traitement.
Le docteur Patrick Mial le rappelle, le dépistage est au point en France. On peut donc rapidement se faire dépister pour le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Un dépistage anonyme et gratuit. Fin novembre, Santé publique France a alerté. Le retard dans les dépistages du VIH à cause de la pandémie de Covid n'a pas été rattrapé. En 2021, un peu plus de 5000 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH et 29% de ces nouvelles infections étaient à un stade avancé. Alors revenons sur un point, dépister le VIH au plus tôt, c'est aussi participer à stopper l'épidémie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé les dirigeants et citoyens du monde entier à se mobiliser pour vaincre le VIH d'ici à 2030. On retrouve le docteur Patrick Mial, responsable du service infectiologie du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Un virus VIH, il n'est pas stable dans le temps, il mute, il varie. Et donc le VIH, si on le traite mal, si on le laisse répliquer dans la population, il va être beaucoup plus adaptable au traitement et donc résistant. Les trithérapies empêchent ça, mais pas toujours à 100% si on fait mal la trithérapie. Donc pour éviter ça, il faut dépister les gens tôt, les traiter tôt, qu'ils prennent un traitement tout le temps, qu'il n'y ait pas de rupture de traitement, que ce soit en France, en Afrique, en Argentine, au Brésil, partout. Et les laboratoires pharmaceutiques qui développent les traitements l'ont compris puisqu'ils arrivent, grâce à l'OMS, à développer des traitements à bas coût et le donner dans les pays à faible pouvoir d'achat qui permet d'avoir une trithérapie très proche pour une population du monde entier. Et si les trithérapies sont optimisées partout, il n'y aura pas d'échec et on arrêtera l'épidémie.
La prévention est donc le premier maillon de la chaîne pour mettre fin au VIH. Pour se protéger, il y a le préservatif et depuis quelques années, la PrEP.
Pour les patients les plus à risque, qui ont parfois une multipartenariat ou des prises de risque sexuelles qui n'arrivent pas à stabiliser leur vie sentimentale, eh bien, on peut leur proposer une prévention de cette infection par ce qu'on appelle la PrEP, donc un traitement préventif d'une contamination par le VIH, qu'on appelle le Trovada actuellement. C'est une association de deux médicaments qui permet, et ça c'est depuis plusieurs années, il est même disponible maintenant en médecine de ville avec une prescription médicale par un médecin généraliste pour diminuer ce risque-là, en sachant qu'actuellement, c'est avant tout une prescription liée à des centres de Cégide ou infectiologique, parce que c'est encore une orientation très associée à la population homosexuelle, beaucoup moins à la population femme, qui est à peu près que 4% des femmes qui utilisent la PrEP, hein, je crois, en France, à peu près, c'est ça maintenant. Et il y a très peu de migrants, parce qu'il y a encore toujours une stigmatisation du VIH en France.
Et quelle est la situation à Bourg-en-Bresse et dans l'Ain ?
Le docteur Mial est arrivé depuis un an au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Avant, il a exercé de nombreuses années à Lyon. Il souligne un avantage. Ici, le dépistage est réalisé sur place, donc comme à Lyon, mais avec une meilleure coordination entre les équipes. Et ceci est essentiel pour une prise en charge rapide, comme l'explique le docteur Mial.
Globalement, le plus important, c'est le délai entre le moment du dépistage et du traitement. On insiste beaucoup actuellement dans la prise en charge du VIH que le dépistage, s'il est fait le lundi, le traitement, on peut le commencer la semaine suivante ou même le même jour si on a le médecin qu'il faut. Parce que les traitements sont très bien tolérés, très efficaces, il y a peu de chances d'échec ou d'intolérance et globalement, le traitement peut être tout de suite initié. Donc ça, c'est intéressant. Le dépistage, il faut qu'il soit très près, le centre de dépistage, très près d'un centre de soins. Ça, c'est très important. Et sur Bourg, c'est ça qu'on a. Je dis simplement que le centre de Bourg, pour ça, il est adapté à la population parce qu'on a sur le même site le dépistage et le traitement. Et après, globalement, les gens, il suffit qu'ils viennent vers nous, que les généralistes soient au courant qu'on fonctionne comme ça pour que ça se passe bien.
Le docteur Mial insiste, il faut proposer régulièrement aux personnes de se dépister pour le VIH. Alors, il aimerait que les médecins généralistes qui connaissent le mieux leurs patients le fassent plus systématiquement, mais il a conscience de la charge de travail de ces derniers.
Et combien de personnes sont suivies au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse?
Alors, un peu plus de 300, selon le docteur Mial, responsable du service infectiologie de Flériat. La clinique Convert a aussi un service, il y a donc un petit pôle de médecins spécialistes. Sinon, les autres patients sont suivis dans les grands centres à Lyon, Villefranche ou encore à Mâcon. On a parlé des moyens de protection pour ne pas attraper le VIH, de l'importance du dépistage pour, s'il est positif, commencer un traitement rapidement. On parle donc de trithérapie, c'est-à-dire l'association de trois molécules rassemblées dans un seul traitement. En clair, on prend trois médicaments dans un comprimé. Un traitement efficace car on ne sait toujours pas guérir le VIH aujourd'hui, comme l'explique le docteur Mial.
Le virus, il s'intègre dans nos cellules. Une fois qu'il a intégré nos lymphocytes, il va rentrer dans notre noyau. Et cette intégration cellulaire fait que ce virus, on ne sait pas le guérir. Mais comme il s'est intégré dans notre noyau, et ben cette infection virale devient chronique et permanente parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle un réservoir viral. Et on ne sait pas guérir le VIH à cause de cette persistance virale dans certaines cellules qui s'est endormie sous forme de réservoir. Et c'est pour ça qu'on arrête le traitement, qui est très efficace pendant des années. On dit, tiens, le malade, il en a marre, ou voilà, bref, parce que nous, on n'essaie pas de l'arrêter, on sait que c'est pas bon. Et ben, on voit, en quelques semaines, le virus réapparaître dans le sang. C'est pas une nouvelle infection, c'est la persistance virale qui réapparaît. Et le virus, il est aussi sensible au traitement d'avant. Simplement, il faut pas arrêter le traitement parce qu'on a restauré une immunité pour aller bien, mais pas pour guérir du VIH. On sait pas guérir du VIH sur le plan immunitaire aujourd'hui. On sait pas faire de vaccins thérapeutiques, on sait pas faire ça. On sait faire de la virosuppression chronique qui fait que le VIH est contrôlé, on ne transmet plus, mais on ne sait pas le guérir.
Et donc vous disiez efficacité, on ne transmet plus le virus et on ne meurt pas donc du sida.
En fait, le VIH, une fois qu'on dépiste le patient au stade d'infection avant le stade sida, on arrête la maladie puisqu'en quelques mois, le virus, on va le rendre négatif, ce qu'on appelle indétectable. Le virus, quand vous êtes infecté, il est présent dans le sang tout le temps. Si je vous fais une prise de sang, vous êtes dépister VIH, vous aurez toujours du virus dans le sang. Dès que je vous donne un traitement, en 6 mois environ, un peu plus parfois, mais un peu moins souvent, on a un virus qui devient négatif sous traitement antirétroviral avec cette fameuse trithérapie en un comprimé. Et donc, on n'a plus de virus agressif, le système immunitaire arrête d'être agressé et va remonter petit à petit. Et surtout, on va arrêter de transmettre à sa femme, à son partenaire.
Est-ce que d'autres traitements pourraient bientôt voir le jour ?
Alors, on essaie de développer des traitements qui permettent d'avoir des activités prolongées sur plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et là, un laboratoire vient de développer un traitement injectable de relais. D'abord, on commence un traitement classique oral par trithérapie. On devient négatif, donc indétectable pour le VIH. Et après cette phase d'au moins 6 mois de virus négatif dans le sang, avec une bonne réponse immunitaire, une bonne observance, c'est-à-dire pas d'oubli tout simplement, que le traitement est bien intégré dans son quotidien, on peut basculer, notamment pour des patients qui ont des problèmes de stigmatisation de traitement, qui ont du mal à sortir leurs comprimés, qui vivent dans des communautés complexes, et on peut leur proposer, à leur demande, ou même simplement parce qu'ils ont des troubles digestifs, et voilà, ils ont du mal à prendre le traitement parce que parfois ça donne quand même des effets secondaires, c'est rare, et on leur propose des traitements injectables à longue durée d'action, qui permet de faire des injections tous les 2 mois. Et ça, c'est la révolution de 2022. Parce que ça annonce les révolutions de 2023 et 2024 avec ce qu'on appelle des long acting, avec des associations qui seront encore plus prolongées. Et on fera probablement dans 2-3 ans des trithérapies avec une injection tous les 6 mois.
Grâce au traitement Apprendre toute sa vie, les personnes vivant avec le VIH peuvent vieillir comme tout le monde. Et alors, à quand un vaccin contre le VIH ?
À peu près 0,1 ou 0,2% des patients sont ce qu'on appelle les HIV contrôleurs. C'est-à-dire que spontanément, vous êtes contaminé et vous avez un système immunitaire capable de contrôler le virus sans être la conséquence du sida. C'est-à-dire que vous êtes contaminé en 2010 et en 2020, vous n'avez toujours pas de sida. Et votre système immunitaire n'a pas été dégradé. C'est ce qu'on appelle les HIV contrôleurs. C'est-à-dire qu'ils ont une faible réplication virale, ils ont un peu de virus, on le sait, hein. On le trouve un petit peu. Mais on sait que leur système immunitaire n'est pas dégradé parce qu'ils ont une capacité cellulaire, c'est les cellules qui sont importantes dans ce virus, immunitaire, à bloquer la réplication virale. Et le vaccin, il faut qu'il fasse exactement ça. En fait, il faut qu'on mime ce que fait la nature. C'est toujours comme ça, hein. On n'est pas meilleur, hein. Et donc, ce mimétisme de vaccin nécessite donc de stimuler l'immunité vers ses lymphocytes pour qu'ils se réveillent et qu'ils soient forts. Alors pour l'instant, on n'a pas de vaccin efficace puisque globalement, malheureusement, comme tout vaccin, on l'a vu avec le Covid, il faut stimuler plusieurs plusieurs cellules pour que le virus soit capable d'être reconnu, quelle que soit sa variabilité. Et le gros problème du vaccin dans le VIH, c'est cette variabilité génétique majeure de ce virus. Un vaccin, il faut que ça marche pour beaucoup de personnes, 90-95, comme pour les premiers cas du Covid, par exemple, où ça marchait comme ça. Et bien ça, on n'arrive pas à le faire encore.
Justement, pendant le Covid, beaucoup de personnes disaient, mais comment ça se fait qu'en moins de deux ans, on ait réussi à trouver un vaccin contre le Covid et qu'on n'arrive pas à trouver un vaccin contre le VIH?
C'est assez simple la réponse, c'est que le Covid, c'est une infection virale aiguë. Et on sait guérir, il y a le modèle. C'est-à-dire que tout le monde qui a le Covid, il n'y a pas 100% de mortalité. Hein, dans le VIH, si vous ne traitez pas le VIH, il y a 99% de mortalité. Hein. Donc il y a un système de défense contre le Covid. Les plus fragiles ne vont pas guérir, malheureusement. On l'a vu, les personnes âgées ne guérissent pas bien et malheureusement vont mourir soit du Covid, soit de leur fragilité. Le VIH, c'est différent. C'est qu'on ne sait pas monter une réponse de défense. On ne sait pas. Ça, sauf les familles HIV contrôleurs. Moi, quand je fais un test VIH, qu'on appelle la sérologie, c'est des anticorps. Mais ces anticorps, ils ne sont pas protecteurs. C'est juste indicateur de la contamination. Donc, c'est des anticorps qui ne sont pas protecteurs. Et le système immunitaire, il est bancal, puisque malheureusement, le VIH, contrairement au Covid, il touche le système immunitaire. Donc, nos cellules de défense. Donc, dans le système immunitaire, il y a des anticorps et des cellules. Donc, les anticorps ne sont pas efficaces et les cellules sont touchées. Et les CD4, c'est les généraux du système immunitaire. Donc, on tue les généraux. Donc les soldats qui s'appellent les CD8 sont pas capables de faire sans les généraux. C'est comme ça le VIH. C'est vraiment notre talon d'Achille, vous avez compris. Alors que le Covid, il touche pas les CD4, il touche pas les CD8, il touche pas les anticorps, il touche notre système respiratoire. C'est une infection virale banale. Donc on peut faire le vaccin. On a fait le vaccin contre la grippe, c'est une infection virale banale. Le Covid, c'est une infection virale banale. Simplement, c'était anormalement grave parce que c'est un nouveau virus qui arrive. Vous imaginez la rougeole. Il y a 5 siècles au Mexique, c'était une nouvelle maladie. Ils sont tous morts de la rougeole. C'est pareil. C'est une nouvelle maladie. On n'a pas de système immunitaire adapté. Et le temps qu'on en monte, il se passe des conséquences, c'est-à-dire des mortalités, des infections graves. Et maintenant, le Covid, il est beaucoup moins agressif pour nous. On s'est habitué à lui, mais lui aussi s'habitue à nous. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus infectant, mais de moins en moins grave. Voilà, c'est ça la différence.
Le docteur Patrick Mial, responsable du service infectiologie du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, les dépistages sont réalisés au centre de santé publique. Il est ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Les dépistages pour le VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles sont gratuits et anonymes. Toutes les informations sur ch-bourg-en-bresse.fr.
Plus de 300 patients vivant avec le VIH sont suivis à l'hôpital de Fléria. Alors comment sont-ils accompagnés?
Ils peuvent bénéficier d'un programme d'éducation thérapeutique spécifique. Il en existe 9 au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour les adultes et les enfants. Il y a donc celui pour les patients vivant avec le VIH, un diabète ou encore un cancer. Stéphane Devers est coordonnateur du programme d'éducation thérapeutique des patients séropositifs.
Donc c'est un accompagnement en fait des patients séropositifs vivant avec le VIH afin d'améliorer, maintenir, voire améliorer leur qualité de vie au jour le jour avec la maladie. C'est un partenariat multidisciplinaire, il y a médecins, il y a diététiciennes, psychologues, infirmiers. Dans d'autres programmes d'éducation thérapeutique, il peut y avoir des personnes qui sont des praticiens en activité physique, par exemple, pour accompagner. Il peut y avoir podologues. Tout dépend des différents programmes d'éducation thérapeutique et de la pathologie chronique qui est prise en charge.
Comment souhaitez-vous faire évoluer ce programme d'éducation thérapeutique à destination des patients séropositifs?
On essaie de communiquer, de faire connaître le programme parce qu'il n'est pas ouvert qu'aux patients qui sont suivis par les spécialistes du centre hospitalier. Il est ouvert à tout patient vivant avec le VIH du département ou hors département, mais pour quelque raison que ce soit, souhaiterait être prise en charge dans notre programme d'éducation thérapeutique. Donc le faire connaître à des médecins libéraux, à des équipes libérales, parce qu'ils peuvent peut-être avoir un suivi d'un patient qui n'est pas suivi sur Bourg-en-Bresse avec les spécialistes, mais qui peut peut-être avoir besoin de connaître le programme. Donc c'est un petit peu développer encore le programme, le faire connaître, essayer de monter en plus du groupe de parole, qui est le seul atelier groupe, d'autres ateliers, séances de groupe si possible.
Stéphane Devers, coordonnateur du programme d'éducation thérapeutique des patients séropositifs.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
Inès, vous nous emmenez en Italie, mais en restant à Bourg-en-Bresse.
tous les lundis soirs dans une petite maison juste à côté de la rivière Ressouze, une dizaine de personnes se retrouvent portées par la même passion, l'italien. L'association franco-italienne de Bourg propose des cours pour tous les niveaux et ce soir, les élèves parlent presque couramment.
Lei parla benissimo. Oh. Si, parla benissimo. Adesso mi faccio fare brutta figura. Dunque, cosa mi può dire? Si trova bene l'associazione?
Sì, certo. Mi piace corsi, mi piacciono i corsi. Ma quest'anno non ho potuto andare in Italia, è la prima volta che cade così. E dunque nelle vacanze ho perso il vocabolario.
Ha perso il vocabolario. E lei l'ha perso il vocabolario?
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Pierre.
Gérard.
Quel est votre lien avec l'Italie? Pourquoi vous apprenez l'italien?
Moi, parce que je suis d'origine italienne. Enfin, c'est mes grands-parents qui étaient venus d'Italie en France. Bon, ça remonte à déjà quelques décennies, tout ça. Et puis, bon, moi, j'ai voulu reprendre contact avec mes racines italiennes. Donc, c'est pour ça que je suis venu prendre des cours d'italien. Et comme j'avais déjà appris l'italien lorsque j'étais élève et étudiant, bon, mais ça fait déjà un certain nombre d'années, donc j'ai voulu reprendre contact avec la langue italienne.
Et là, ça fait combien de temps que vous faites des cours dans cet asso?
Ça doit faire 4 ans.
Et donc vous, quel est votre lien avec cette langue?
Moi, je voulais faire d'espagnol, en fait, au centre social d'Even, et puis il n'y en avait pas. Et là, donc, je suis venu ici, c'est ma deuxième année seulement ici, mais bon, c'est une langue que j'adore. Et là, il se trouve qu'on est parti avec une association, donc j'y étais, avec un Leonardo, tous les deux, dans Toscane, que je ne connaissais pas, et c'est vraiment bien, quoi.
Et qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous venez ici, dans ce cours?
Régulièrement, bon, l'association nous paye un coup à boire avec un petit coup de prosecco et puis un peu à manger avec un morceau de panettone, par exemple, ou des petites spécialités italiennes, quoi, voilà. Donc ça aussi, c'est sympa, quoi.
Et sinon, de temps en temps, sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, on fait des petits exposés, chacun à son tour, on prépare un petit truc, hein, mais sans prétention, hein, voilà. Et puis on fait donc un exposé sur différentes choses, voilà.
Une bonne ambiance.
Voilà, oui, c'est très bien. Et on apprend beaucoup.
Et
bon, Georgia, je pense qu'on a de la chance de la voir.
Oui. Elle est quand même très bonne prof, très sympathique, très ouverte. On a beaucoup de chance de la voir.
Je m'appelle Giorgia Persico et j'arrive d'Italie.
Depuis quand vous êtes là?
On est là depuis août 2019. On est arrivé puisque mon mari, en effet, il voulait changer de travail. Donc, il a accepté un travail à Bourg-en-Bresse et nous, on l'a suivi. Et donc, on est tout venu à Bourg-en-Bresse.
Et vous étiez où avant?
On était en Italie à 1 heure de Milano, plus ou moins. Il s'appelle Vimercate, la petite ville.
Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette association?
Depuis que je suis arrivée, je rencontrais la sœur du président Enrico, je pense, la première semaine que j'étais ici au marché. Elle a entendu parler italien, elle m'a arrêtée, on s'est mis à papoter.
Et donc là, comment ça se passe vos cours à peu près? Comment vous les organisez?
Je cherche en effet de faire un peu parler parce que c'est ce qu'ils demandent. En effet, c'est plus la chose qui plus leur intéresse de parler plus que de faire de la grammaire. Donc on parle, on fait un peu de grammaire, sinon c'est difficile de parler. Donc on fait un peu tous, en effet. On cherche à faire un peu tout ce qu'il convient à tous. Comme ils sont tous différents, avec des niveaux différents et des têtes différentes, on change. Tous les fois, on fait une chose un peu différente comme ça. J'espère que ça marche pour tout.
E allora noi abbiamo Sylvie. Sylvie, mi dica, Sylvie, è da tempo che non ti vedo.
Eccomi.
È da tempo che non ti vedo.
Qui? Un poco.
Un poco.
Non, tieni.
Je suis Enrico Palmieri, le président fondateur de l'association franco-italienne de Bourg. Il y a de cela quelques années tout de même, puis c'était en 1978. Je suis d'origine italienne de la région des Pouilles, comme la majorité des Italiens de Bourg. C'est une particularité, c'est une émigration très ancienne qui remonte au début des années 20, exactement 1924. Il y a 100 familles qui ont débarqué le même jour à Bourg-en-Bresse.
Et donc pourquoi vous avez créé cette association?
Alors l'association a été créée parce qu'à un moment donné, j'ai senti la nécessité de s'organiser, d'organiser la communauté italienne et celle d'origine de Saint-Séverin en particulier, parce que très jeune, j'ai été appelé à faire de l'assistance pour les familles qui arrivaient donc, dans les années 50, 60, etc. Et puis, il est arrivé un moment où, les années passant, nos parents arrivaient à maturité de leur droit à la retraite. Et les démarches auprès du consulat étaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus donc, importantes. On était la seule communauté qui n'était pas organisée. Donc voilà, j'ai averti cette nécessité et nous avons fondé l'association. Et donc je disais, en écoutant les aspirations des uns des autres, on a créé donc, des cours d'italien pour qu'on conserve. Au départ, le but était celui-là, celui de transmettre notre culture et donc notre langue aux nouvelles générations. Mais aujourd'hui, c'est plus du côté français que les cours sont orientés que du côté de la communauté italienne. On a créé une autre association parallèle qui est née dans l'association mère, qui est l'Académie de la Noble Paste et l'Ordre de l'Oreillette. C'est-à-dire que là, on veut faire vivre une tradition ancienne qui remonte au Moyen-Âge, qui remonte au duc d'Anjou, puisque ce serait les ducs du duc d'Anjou qui ont amené cette forme de pâte qu'est l'oreillette dans les Pouilles. Et comme cette tradition est en train de se perdre, un soir, en mangeant à l'association, justement, dont le repas principal, c'était les oreillettes, je dis à mes amis, eh bien, vous savez que cette tradition est en train de se perdre. Et voilà, je me suis inventé cette histoire d'académie, qui est une forme de confrérie, ni plus ni moins, et qui a beaucoup de succès, puisque la confection des pâtes est assez ludique, donc les enfants aiment bien travailler les pâtes. Bon, donc on intervient à la demande de la municipalité, on intervient des fois dans les écoles, dans les activités périscolaires, mais on voudrait développer cette activité au niveau du territoire, du département de l'Ain.
Cosa hai fatto questa vacanza?
Questa vacanza?
Cosa hai fatto?
Ah, sono andato qualche volta, tre volte in Italia. Ho fatto un matrimonio in Italia. Dopo sono andato.
Pour apprendre l'italien avec l'association franco-italienne de Bourg-en-Bresse, vous pouvez vous inscrire, même en cours d'année, et vous pouvez contacter Enrico au 06 69 59 78 48.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
On se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Nous parlerons de boxe anglaise. Bourg-en-Bresse accueille le samedi 17 décembre la finale du championnat de boxe Auvergne-Rhône-Alpes. Et belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.